Vous écoutez RTL.
Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé.
Bonjour Alain Juppé.
Bonjour Monsieur Apathy.
Si l'occasion vous en était fournie, voteriez-vous dans les circonstances actuelles en faveur de frappes ciblées contre le régime syrien ?
Je voterai en faveur d'une intervention en Syrie. Ce qui se passe en Syrie est inacceptable. C'est un massacre comme on en a vu peu depuis des décennies. Vous connaissez les chiffres, plus de 100 000 morts, des centaines de milliers de blessés et de torturés, 2 millions de réfugiés, d'après les chiffres de l'ONU. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. J'ajoute qu'il y a une question de principe. L'utilisation des armes chimiques, qui est proscrite par les conventions internationales, a toujours été un tabou depuis des décennies. Et ce tabou a aujourd'hui été levé. Je suis pour ma part convaincu par nos propres services de renseignement, qui, même s'ils n'en ont pas la preuve formelle, il n'y a pas de flagrant délit en l'espèce, considèrent qu'il y a une certitude sur la responsabilité du régime syrien dans l'utilisation de ces armes.
Ceux qui sont plutôt hostiles à l'idée de frappe disent à quoi elle servirait exactement. On ne cherche pas à renverser Bachar al-Assad, donc à quoi ça sert ?
Alors, après avoir dit ce que j'ai dit, je voudrais ajouter immédiatement que c'est une décision extraordinairement difficile. Et je n'en sous-estime pas les risques de tous ordres. Les risques politiques, les risques militaires sur le terrain, les risques de contagion. On voit bien qu'aujourd'hui la Jordanie est fragilisée, le Liban encore plus, et ainsi de suite. Il y a l'Iran, il y a la Russie, donc c'est une décision qui mérite d'être vraiment pesée avec toutes ses conséquences.
Mais si on la prend, pour quel bénéfice ?
Pour marquer un coup d'arrêt. Pour dire à tous les dictateurs potentiels de la planète, et en particulier au régime syrien, qu'on ne le laissera pas faire n'importe quoi. Et vous savez, il y a des cas où une intervention militaire déclenche un processus de paix, parce qu'elle fait bouger les choses. Alors, sous quelle forme ? Moi, je ne suis pas aujourd'hui au gouvernement, donc je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Est-ce que ce sont des frappes ciblées ? Est-ce que c'est une zone d'exclusion aérienne ? Est-ce que c'est la fourniture d'armes à la résistance pour rééquilibrer le jeu ? Ça, c'est aux militaires et aux spécialistes de le dire, mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Et je suis allé un coup plus loin dans ma réflexion, parce qu'on nous dit aujourd'hui, il faut faire quelque chose, mais avec le feu vert des Nations Unies. C'est une position totalement...
On nous dit, ce sont notamment les responsables de l'UMP qui le disent.
Beaucoup de gens disent ça, les responsables de l'UMP, certains responsables de l'UMP, je l'ai entendu hier, effectivement. Je conçois bien cela. Et ça a été une ligne directrice de la diplomatie française depuis toujours. Pas d'intervention de force sur la scène internationale sans feu vert du Conseil de sécurité, parce que c'est la source de la légalité internationale. Mais on voit bien aujourd'hui que dire cela, c'est ne rien faire. Puisque la Russie ne bougera pas. J'ai eu moi-même de longs entretiens avec mon homologue russe, Sergueï Lavrov, pendant des mois et des mois sur ce sujet. J'ai essayé de tout faire pour le convaincre qu'on ne pouvait pas continuer à soutenir Bachar el-Assad. Et pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Je vois mal Poutine au G20 changer de position. Et donc, se retrancher derrière le feu vert du Conseil de sécurité, c'est en réalité se rendre complice de l'inaction. Et je voudrais simplement invoquer certains précédents historiques. Il y a eu le Kosovo, où l'OTAN est intervenu sans feu vert formel des Nations Unies. Et puis un autre souvenir qui me touche beaucoup, parce que j'ai vécu ça aussi de façon très douloureuse, c'est la situation dans l'ex-Yougoslavie. Les casques bleus en ex-Yougoslavie étaient l'arme au pied, parce que c'était le mandat des Nations Unies. Et ils voyaient les gens se massacrer sans rien faire. Jusqu'au jour où Jacques Chirac a dit « On ne tirera plus sur les casques bleus français sans qu'ils ne ripostent ». Ils ont riposté, et ça a été l'enclenchement du processus de paix qui a abouti aux accords de Dayton. Vous voyez qu'il faut aussi envisager cela avec un certain réalisme.
De votre point de vue, Alain Juppé, le président de la République gère aujourd'hui aussi correctement que cela peut être fait la situation ?
Moi, j'ai été en grande partie attentif et même convaincu par ce qu'a dit le Premier ministre hier. Cela dit... Ventura, qui sait beaucoup mieux que moi ce que pense Nicolas Sarkozy et qui l'a traité avec une petite touche d'ironie, nous amène à réfléchir quand même. Est-ce qu'effectivement, on a aujourd'hui toute la dynamique diplomatique qu'il faudrait vis-à-vis du monde arabe, vis-à-vis de nos partenaires européens, vis-à-vis des grands de ce monde, pour essayer de faire bouger les choses?
Je dirais que les Britanniques n'aident pas à enclencher la dynamique, les Allemands n'aident pas à enclencher la dynamique, les Italiens n'aident pas à enclencher la dynamique.
Est-ce que nous-mêmes faisons ce qu'il faut pour les convaincre?
Il vous semble que non?
Il me semble que non. Il me semble que nous n'avons pas été assez actifs sur ce plan-là. Et évidemment, vous avez raison de le souligner, c'est une faillite absolument catastrophique de l'Union européenne. On ne demande pas aux pays de l'Union européenne de s'engager dans une opération militaire. La plupart d'entre eux n'en ont pas les moyens. Mais au moins une solidarité politique et un message politique fort.
Et ceux qui en ont les moyens, comme la Grande-Bretagne, se récusent devant l'action. Avez-vous été surpris, puisque vous le connaissez, Alain Juppé, par l'hésitation ? La volte-face est presque de Barack Obama qui, du coup, attend, on ne sait pas trop jusqu'à quand, le faire de son congrès.
Pas vraiment. On connaît le tempérament du président américain, qui est un homme prudent, sans doute...
Trop.
Sans doute... pas paralysé, disons, mais en tout cas retardé dans son processus de décision par ce que les États-Unis ont vécu en Irak ou ce qu'ils vivent en Afghanistan. Je me souviens que lors de l'opération en Libye, les États-Unis nous ont soutenus quelques jours, militairement, je veux dire.
Trop prudent, Barack Obama. Vous n'attendez pas grand-chose du G20 qui s'ouvre aujourd'hui.
Je ne veux pas être pessimiste, hein, quand on a dans la même salle, est-ce qu'ils auront des entretiens bilatéraux, on ne le sait pas, Poutine, Obama, Hollande et quelques autres, il peut toujours se passer quelque chose. Connaissant un peu Poutine, je ne suis pas sûr que la Russie bougera d'une position d'ailleurs qui, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, on dit la Russie est maître du jeu, mais je crois que ça l'isole en réalité, politiquement et moralement.
L'affaire française, c'est l'histoire du vote. Alors, il y a une lecture constitutionnelle qui n'est pas une mince histoire. Est-ce que le président de la République peut, doit, seul ou pas, décider d'une action militaire ?
Mais il n'y a pas de problème constitutionnel. On se crée encore des problèmes qui n'existent pas. Bien sûr que le président de la République peut décider seul d'une intervention militaire.
C'est ce que dit la Constitution.
Tout à fait, mais la Constitution, article 51, dit le gouvernement peut ouvrir un débat, faire une déclaration suivie d'un débat et d'un vote. Donc rien n'empêche, sans porter atteinte aux prérogatives du président de la République, le gouvernement d'aboutir à un vote. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, il est question de le faire à un moment ou à un autre du processus.
Pour vous, il n'y a plus de débat. Il vaut mieux se dire aujourd'hui qu'un vote aura lieu. Et c'est beaucoup plus simple comme ça.
Je le pense, enfin, on va voir comment les choses évoluent. Et je pense effectivement, c'est un des arguments que j'ai évoqué lorsque j'en ai parlé récemment à Arcachon aussi, que le fait de s'affranchir, si nous le faisons, de la décision du Conseil de sécurité, justifie qu'il y ait un vote, parce que c'est une décision lourde.
Quand on vous écoute, Alain Juppé, on comprend assez facilement que votre position est beaucoup plus claire que celle de votre parti.
Alors, parce que je suis le seul à l'exprimer, peut-être.
Non, par exemple...
Je veux dire la mienne.
À la vôtre, oui, bien sûr. Mais pour l'UMP, quelquefois, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Est-ce que cela veut dire que la base de l'UMP, beaucoup de ses cadres sont réticents à l'action militaire et que vous êtes peut-être minoritaire dans votre parti ?
Certainement, parce que les militants de l'UMP sont à l'image des Français. Les Français sont hésitants, réticents, inquiets, je les comprends, parce que l'utilisation de la force a toujours des conséquences lourdes. Et puis, il y a cette espèce de... J'allais dire propagande, le mot peut-être forme, cette espèce d'information qui est distillée. Et si on nous mentait, hein, on nous a menti en Irak sur les armes de destruction massive, on nous raconte peut-être aujourd'hui des choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai confiance dans nos services de renseignement, c'est eux qui le disent aujourd'hui.
Et pour vous, il n'y a pas de risque d'être trompé comme on l'a été ?
Qui a des stocks d'armes chimiques ? C'est le régime syrien, on le sait depuis longtemps. Qui a la capacité de les utiliser ? C'est le régime syrien. Et les circonstances dans lesquelles ce drame s'est produit désignent très clairement le régime syrien.
Alain Juppé.